On a des très bons amis avec qui on passe du temps chaque année parce que moi, je suis comme un gars de continuité, là, tu sais, je commence à enseigner au camp Patmos il y a 33 ans, puis là, je reviens chaque année. Puis chaque année, ben, on rencontrait Lise et Irénée, mais il y a un bout de temps qui était à Sherbrooke. Puis là, ils sont revenus au lac. Donc, on est content d'être ici. C'est un privilège pour moi, vraiment. Puis, Brian, c'est un gars que j'apprends à connaître, mais qui est formidable. Moi, je suis très édifié, autant qu'il peut l'être. Donc, c'est super. J'ai pensé apporter un sujet tout simple, mais super important, qui est savoir encourager les autres. C'est un thème que j'ai déjà traité, pas ici, mais quand même dans des prédications. Mais tu sais, tu dis, bon, ça prend quoi pour grandir spirituellement? Bon, ça prend de l'instruction biblique, ça prend de temps en temps un petit poussé dans le dos, là, tu sais, parce qu'on doit mettre un domaine de notre vie en ordre, ou on doit travailler un certain point de notre caractère ou de notre attitude. Ça, c'est vrai, mais ça prend aussi de l'encouragement. Ça prend de l'encouragement et c'est pas quelque chose qui est très naturel dans notre culture française. Je blâme pas les Français, là. On va parler de la culture canadienne-française. Puis quand je suis allé aux États-Unis justement pour étudier au Dallas Theological Seminary, moi je parlais pas l'anglais. Tu sais, j'étais un bonhomme qui n'avait pas été bon à l'école, ni au primaire, ni au secondaire. J'avais souffert beaucoup de rejet à cause de l'obésité, à cause du fait que j'étais pas sportif. En fait, j'avais pas beaucoup d'atouts pour développer une bonne image de soi. Je me convertis à 17 ans, je suis plutôt brisé, là, malgré les apparences, tu sais, parce que je jouais de la guitare, j'étais un ménestrel, un poète, mais j'étais très brisé à l'intérieur. Mais le Seigneur me prend tel que je suis. Puis qu'est-ce qu'il fait en premier lieu? Tu sais, il aurait pu m'instruire, me façonner, m'exhorter, tout ça, mais qu'est-ce qu'il fait avec moi? Il me fait retrouver confiance en moi. J'avais tellement pas confiance en moi, là. J'avais 17 ans, mais je paraissais aux yeux des autres. Tu sais, on a tous un personnage, hein, très confiant, mais en réalité, à l'intérieur, je ne l'étais pas du tout. Et le Seigneur dit, garde Bernard, je te prends tel que tu es, là. C'est comme un pot brisé, puis je vais te réparer. Mais je vais commencer par te dire à quel point tu es précieux à mes yeux. Alors, les premiers temps de ma vie chrétienne, ça a été de l'encouragement, de la valorisation venant de la part de Dieu. Puis un peu plus tard, sont venus les leçons, l'instruction, la correction, les épreuves qui m'ont permis de dépendre davantage de Dieu, mais l'encouragement, c'est important. Et quand je suis arrivé aux États-Unis pour mes études théologiques, là, je suis sorti de la culture canadienne-française. Où je trouve qu'on est très, et je peux parler de ça parce que je suis un Québécois, là, un Canadien français, où je trouve qu'on est très chialeux. On vit dans une des parties les plus merveilleuses du monde, que ce soit au niveau de l'abondance dont on jouit, même si c'est pas parfait, puis même si nos gouvernements sont pas parfaits, puis même si la vie n'est pas parfaite, reste qu'on vit dans un des plus beaux coins du monde. Puis au lac Saint-Jean, ben là, c'est encore plus beau. Il y a un gros lac en forme de bleuet, là, tu sais, au milieu du paysage, c'est quand même fantastique. Mais je trouve qu'on est chialeux. C'est pas possible. C'est pas possible. On a tendance à voir ce qui va pas, à voir les points négatifs des autres, puis si on n'est pas pleinement satisfait dans nos désirs, on chiale, on récrimine, on chiale. Peut-être que c'est pas votre cas. Si vous êtes le Québécois d'exception, gloire à Dieu. Mais moi, j'ai dû apprendre l'encouragement. J'arrive aux États-Unis, je connais pas l'anglais, j'arrive dans un programme très, très exigeant de maîtrise, où est-ce que tous ces Américains-là avaient déjà une profession. Il y avait des docteurs, il y avait des avocats, il y avait des professeurs. Ils avaient tous fini leur premier cycle qui conduisait à une profession. Moi, j'arrive là, le petit Bernard qui comprend à peine l'anglais. Il fallait que je leur demande de répéter « What did you say? » Ça, c'était ma phrase préférée au début. « What did you say? » Je ne comprenais pas. Mais là, ils ont réalisé que je ne comprenais pas l'anglais. Mais en tout cas, je commence à mon cours, puis je vous épargne les détails parce qu'on n'aura pas le temps de couvrir mon texte. Mais puis qu'est-ce qui arrive? C'est que là, à chaque petit paper que j'écrivais, puis c'était du racolage, hein, je lisais quelques phrases dans un livre, c'était pas du trichage. Dans mon cas, c'était de la survie. Mais tu sais, je prenais des phrases dans un livre, puis je faisais du casse-tête, là, puis je raboutais ça avec une autre phrase que je trouvais dans un autre livre, parce que j'étais pas capable d'écrire l'anglais. Mais là, il y avait des graders, les professeurs avaient des aides pour corriger nos travaux. Puis là, à tout moment, la petite phrase apparaissait sur ma feuille, « Keep the good work, Bernard », en voulant dire « Continue ton bon travail hey. ». Moi, j'ai dit mon bon travail. C'est terrible ce que je fais, mais quand même. Donc, j'ai vécu dans ce contexte-là d'encouragement, puis j'ai trouvé les Américains où est-ce qu'on était. Je ne dis pas que c'est comme ça partout, mais très, très, très encourageant. Alors, ils m'ont aidé, ils m'ont valorisé, ils m'ont aidé à passer à travers. Moi qui avais été nul au primaire, au secondaire, mais là, Dieu a dit, garde, là, attache ta ceinture, Bernie, parce que tu vas travailler. Puis j'ai persévéré là-dedans, j'ai grandi, tout ça. Tout ça pour vous dire que l'encouragement est important. Puis je l'ai découvert aussi quand j'ai étudié la lettre de Paul aux Philippiens. Et on va regarder ensemble ce matin le chapitre 1, versets 3 à 11. Mais j'aimerais juste vous dire que, avant d'exhorter les Philippiens, parce que l'apôtre Paul va les exhorter dans sa lettre... Par exemple, t'sais, il va leur dire « Ne faites rien par esprit de parti ou par recherche de gloire personnelle, mais que l'humilité vous fasse regarder les autres comme étant supérieurs à vous, qu'ils le soient ou non. » Mais l'attitude, là, c'est de les regarder comme ayant de la valeur, de les écouter comme ayant des choses très intéressante et édifiante à dire. Puis il va les exhorter aussi en disant « Travaillez à votre salut parce que il vous manque d'humilité, puis à cause de ça, vous n'arrivez pas à vivre de l'unité. Plus tu as de gens orgueilleux dans un groupe, dans une famille, plus ça se dispute. Et plus l'unité, l'harmonie est difficile à établir. Si tout le monde a raison, là, c'est difficile d'avoir le consensus. Mais l'apôtre Paul, avant de les exhorter, il va les encourager. Il va les soutenir pour qu'ils puissent s'attacher au Seigneur, puis grandir, lentement, pas vite, mais grandir sûrement. Moi, je n'ai pas arrêté de grandir. Je me suis peut-être égaré à quelques moments, mais je n'ai jamais passé de grandes périodes de ma vie loin du Seigneur, mais je suis loin d'être parfait. Et je trouve donc que Dieu est patient envers moi. L'œuvre qui a commencé dans mon cœur à l'âge de 17 ans, il la poursuit. Puis là, j'ai 68 quand même, à 20 ans du ciel, à peu près. Bon. Alors... Je me dis, bon, on est tous découragés à l'occasion. Êtes-vous d'accord avec ça? Je ne sais pas si vous êtes venu au Seigneur en étant brisé comme moi je l'étais, mais on est tous découragés par différentes choses. David était un homme de Dieu, mais il dit dans le psaume 38, verset 6, « Je suis courbé. » Courbé. C'est un homme de guerre, là. « Je suis courbé. » Abattu. Au dernier point, c'est au superlatif, cela, là. Tout le jour, je marche dans la tristesse. Comment ça se fait qu'un homme, selon le cœur de Dieu, pouvait vivre des émotions semblables de découragement? Pourquoi Dieu a-t-il permis ça? Ben, Dieu désire qu'on le découvre comme le grand consolateur. Et la façon la meilleure, je vais vous dire, dans le fond, de devenir des instruments de consolation, d'encouragement les uns pour les autres, c'est d'abord d'expérimenter les consolations de Dieu. Et c'est exactement ce que Paul dit dans 2 Corinthiens. Il dit, on a vécu des choses épouvantables. On était oppressés, abattus dans la détresse. Mais on a expérimenté la consolation de Dieu. Puis dans sa deuxième lettre aux Corinthiens, au début de la lettre, là, il dit, et parce qu'on a goûté aux consolations de Dieu et à son encouragement, on est capable de vous encourager en son nom. Alors ça c'est super important. Écoutez, il y a des gens qui vivent de grandes pressions à cause de leur ministère, des luttes spirituelles réelles, substantielles, mais il y a d'autres pressions de la vie aussi qui font partie de notre vie terrestre dans un monde imparfait. On est des êtres imparfaits qui vivons dans un monde imparfait avec des gens imparfaits. Bon, des fois, on a des problèmes au niveau du travail, des manques à gagner. Ça met une pression constante sur nous. Il y a aussi la maladie. Est-ce qu'il y en a qui ont été malades ici de façon quand même assez sérieuse? Il y a aussi les relations brisées. Est-ce qu'il y en a qui ont vécu des relations brisées? C'est dur, ça. Des conflits, des désirs non comblés. Hein? On aurait tant voulu que, mais Dieu ne l'a pas permis. Il ne nous a pas donné ce qu'on désirait, à court terme du moins. Et on a peut-être vécu du rejet, on a peut-être vécu des échecs. Et la première solution au découragement, c'est évidemment de se tourner vers le Seigneur. Il faut que tu expérimentes son encouragement. Ça, c'est la première chose. Il y a un verset merveilleux, Isaïe 66, 2. « Voici sur qui je porterai mes regards. » C'est l'Éternel qui parle, le Dieu de l'univers. Écoute, nous autres, là, vous avez-vous déjà dit qu'on était un petit point noir, là, une petite puce là, sur la petite boule. Là. Puis en fait, c'est tellement petit que c'est invisible. On ne peut pas, mais Dieu est tellement grand et il voit l'infiniment grand, mais il voit l'infiniment petit, puis il nous voit chacun. Voici sur qui je porterai mes regards, pas sur celui qui accomplit des exploits, là, puis qui se pète les bretelles, non, sur celui qui souffre. Ça veut dire que le Seigneur voit la souffrance dans nos cœurs. Le premier livre que j'ai lu à ma conversion, c'était La personne et le personnage, ou l'inverse d'un médecin suisse, là, comment est-ce qu'il s'appelait? En tout cas, ça m'échappe. Le personnage et la personne. Ça veut dire qu'on a tous un... C'est pas de l'hypocrisie, mais on a tous un personnage, voyez-vous, pour protéger notre sensibilité. Donc, les gens voient une partie de nous-mêmes. Et quand on se rend compte à l'Église, ils voient une partie de nous-mêmes. Et à moins qu'on vive ensemble, qu'on travaille ensemble, ils ne nous voient pas dans nos faiblesses. Puis c'est correct, puis je ne suis pas pour qu'on puisse révéler nos faiblesses à tout le monde publiquement. Je crois que ce n'est pas une bonne idée. Pourquoi? Parce que les gens ne nous aiment pas suffisamment pour prendre nos confidences les plus sensibles. Si tu as des amis proches, des gens qui t'aiment vraiment, qui te connaissent et qui continuent de t'aimer, bien là, tu peux y aller. Mais sinon, là, fais attention. Mais qu'est-ce que je veux dire, c'est que ce verset-là dit, « Voici sur qui je porterai mes regards, sur celui qui souffre, qui a l'esprit abattu, sur celui qui craint ma parole, malgré tout. » Tu sais, il est abattu, il est découragé, mais il a le désir dans son cœur de m'honorer et de m'obéir. Et je pourrais vous lire plein d'autres versets dans Isaïe 40, c'est extraordinaire. Il donne de la force à celui qui est fatigué. Et je ne vais pas lire ça, on n'a pas le temps. Donc, la première solution au découragement, c'est de se tourner vers Dieu. Moi, j'ai vécu plusieurs épreuves dans ma vie, puis une période assez longue d'épreuves, 10 ans, avec une scoliose aiguë qui a fait que tout mon corps s'est twisté, puis je me suis retrouvé avec la tête, là, après 10 minutes, là, ma tête était complètement décentrique, sais, de mes muscles principaux. Puis c'est pesant une tête, hein? C'est aussi pesant qu'une grosse boule de quille, puis la mienne est un peu enflée, donc c'est encore plus pesant. Mais là, tu es là du matin, là, tu te lèves le matin, là, puis 10 minutes après, ton cou fait ça, tu as un genre de tremblement. Puis là, tu vas voir tous les médecins que tu connais, les chiro, les ostéos, les neurochirurgiens, puis les rhumatologues, puis ils disent, ben, on ne sait pas. C'est pas c'est quoi. Bon, puis là, tu restes 10 ans pogné comme ça, puis 10 minutes après, tu es obligé de te tenir la tête pour finir le reste de ta journée. Tu n'es pas capable de t'asseoir dans une assemblée comme ça. Tu le fais, mais comme ça. Puis Seigneur, il m'embarque, il me laisse entrer dans ce tunnel d'épreuve. Savez-vous pourquoi? Parce qu'il voulait que je goûte encore plus à sa puissance et surtout à ses consolations, parce que c'est à ce moment-là que j'ai appris à crier à Dieu. Avant, je ne le faisais pas. Oui, je priais, mais je ne criais pas à Dieu. Mais là, je voyais dans les psaumes que David criait à Dieu, puis que d'autres hommes de Dieu criaient à Dieu. Puis là, dans cette période-là, il y a des jours, j'étais tellement découragé. Moi, je ne suis pas un grand émotionnel, je suis un rationnel plus, intellectuel, rationnel. Mais là, je te dis que je suis devenu émotionnel, puis il y a des journées là, que je commençais, je te suis découragé en me levant le matin. Puis je disais, Seigneur, encourage-moi. Je t'en supplie, tu ne veux peut-être pas me sortir tout de suite du tunnel de l'épreuve, mais je te supplie de me consoler et de m'encourager. À chaque fois que j'ai crié à Dieu le matin, il s'est passé quelque chose dans la journée par laquelle Dieu m'a encouragé. Soit une rencontre, soit, je ne sais pas moi, un événement particulier, un verset ou quoi que ce soit. J'ai commencé à vivre des merveilleux miracles où Dieu m'a encouragé. Mais il me formait. Puis là, après l'épreuve, là, dans le fond, ça me prenait juste une petite talonnette d'un centimètre. J'avais eu un gros accident dans le parc des Laurentides, puis mon pied avait été arraché, il l'avait rebâti, mais tu sais, finalement, je me suis retrouvé avec une jambe plus courte que l'autre, puis tout mon corps là, se twistait pour remettre ma tête au niveau. Ma talonnette, ouf, après 10-11 ans, ouf, ça commence à tenir. Puis là, j'ai fait une expérience, j'enlève la talonnette, je retourne 10 ans en arrière. Tout se recrocher. J'ai fait le test scientifique. Il paraît qu'il faut. Je ne suis pas très scientifique, mais il paraît qu'il faut isoler le facteur. Donc, j'isole le facteur. Puis là, 3 mois après, puis ça prenait quand même 3 mois, mais ça revient tout croche, faible comme avant. Je remets la talonnette au plus vite. Et je vis avec la talonnette. Mais je dis, Seigneur, pourquoi tu ne m'as pas fait connaître la talonnette avant, Bernard? Tu dépendais déjà de moi, mais je voulais que tu dépendes encore plus de moi. Puis je voulais que tu goûtes encore plus à mes consolations pour que tu puisses consoler d'autres personnes autour de toi qui souffrent. Voilà. Alors, dites-vous qu'il n'y a rien dans notre vie que le Seigneur fait sans raison. Ça nous paraît parfois incompréhensible. On ne sait pas pourquoi Dieu permet telle ou telle épreuve, telle ou telle pression, telle ou telle ci, ou telle ça, mais il est en train de nous former et de nous outiller pour qu'on soit de meilleurs serviteurs dans son œuvre. Bon, moi, on me reproche à l'Église d'avoir de si longues introductions que je n'ai pas le temps de commencer mon message. Alors, je suis posé d'être bon là-dedans, mais je ne suis pas très bon. Une petite illustration, puis on s'en va dans notre texte. Le duc de Wellington, le leader militaire britannique qui défie Napoléon à Waterloo, était brillant, sévère, mais avare de compliments. Une jeune femme lui demanda un jour ce qu'il ferait différent s'il avait à recommencer sa carrière. « Oh, dit-il en soupirant, je crierais beaucoup moins. » Après mes hommes, et je les encouragerais davantage. Je mettrais peu d'accent sur leurs erreurs, mais je soulignerais leurs moindres efforts. J'essaierais de comprendre, d'écouter et de comprendre davantage et de juger beaucoup moins. Parce que souvent, on juge sans même avoir écouté les gens et comprendre leur situation. Et je suis coupable de ça aussi. J'essaierai de comprendre Et en somme, j'irai chercher ce qu'il y a de meilleur dans chacun de mes hommes. C'est ça que Dieu veut faire. Dieu veut venir chercher ce qu'il y a de meilleur en nous, et c'est pour ça qu'il nous encourage. Parce qu'il sait qu'il ne peut pas juste nous montrer tout à la fois tout ce qu'il y aurait à changer dans nos vies, dans nos attitudes, dans notre... Non, Dieu, mettons qu'il nous donne 3 encouragements, une petite leçon, puis après il nous redonne des encouragements, comprenez-vous? Puis c'est comme ça que ça doit se produire dans l'Église aussi. Il faut que ça se passe comme ça. Dans l'Église, même si ce n'est pas dans notre culture canadienne-française. Ça, c'est super, super important. Ah, il y a des gens qui disent, ben non, je n'ai pas besoin de complimenter mon épouse, je n'ai pas besoin de lui dire que je l'aime, que je l'apprécie, puis d'être attentif à toutes les bonnes choses qu'elle fait. Non, non, je suis plutôt porté à voir ce qu'elle ne fait pas, ce qu'elle devrait faire, puis je la critique. Fais ça à cœur de jour. Puis là, tu t'étonnes après ça que ta relation émotionnelle avec ton épouse ne soit pas bonne. Tu sèmes du poison jour après jour. Comment veux-tu que ton jardin pousse? Tu tues les belles herbes dans le cœur des autres, les beaux fruits. Alors, il faut vraiment apprendre l'encouragement. Je suis un peu dogmatique là-dessus. Vous devez apprendre l'encouragement. Êtes-vous d'accord? OK, on peut continuer. Donc, écoutez, il y a 4 façons. Il y a des... dans mes diapos, là, tu peux aller de la... OK, 4 façons d'encourager les gens selon Philippiens 1, 3 à 11. Et la première, j'ai jusqu'à quelle heure? Euh? 11h20, OK, c'est bon, ça va bien. OK. J'ai 4 façons. C'est très simple, vous allez voir mon message. Première façon, ça se trouve dans les versets 1. Non, pas 1, mais Philippiens 1, versets 3 à 5. Paul mentionne aux Philippiens qu'il remercie Dieu pour eux et pour la part qu'ils prenaient à l'Évangile depuis le premier jour, c'est-à-dire depuis 10 ans, au moment de la fondation de l'Église, là. Par l'expression « l'apport que vous prenez à l'Évangile depuis le premier jour jusqu'à maintenant », verset 5, alors vous pouvez tourner et lire le texte, là. Moi je ne le lis pas avec vous. L'apôtre fait référence en particulier aux diverses contributions financières des Philippiens à la cause de l'Évangile depuis le moment de la fondation de l'Église. Puis il en parle aux Corinthiens, il prend l'exemple des Philippiens, des autres aussi dans la région de la Macédoine, des églises de la Macédoine, pour exhorter les Corinthiens à être généreux aussi. Il leur dit, imitez les frères de Philippe et les autres là, de cette région-là, parce qu'ils étaient très pauvres, très, très pauvres. Puis c'est normal qu'ils étaient pauvres à Philippe, parce que c'était une colonie romaine. Les Philippiens avaient aidé les futurs empereurs à gagner des batailles dans la plaine de Philippe. Puis le futur empereur, enfin, ou l'empereur qui allait être en place, il les avait récompensés en leur donnant la citoyenneté romaine. Mais dans la société romaine, il y avait plein de couches de société. Comprenez-vous, il y avait des riches, il y avait des moins riches, il y avait des très bien placés, puis il y avait des beaucoup moins bien placés. Puis quand les gens se convertissaient à Christ, ce qui était impensable à Philippe, puis il n'y avait pas de synagogue dans la ville de Philippe, c'est rare, là. Pourquoi? C'était pas toléré. C'était le culte à l'empereur. C'est le seul culte là, qui était toléré en ville, et les croyants n'étaient pas plus tolérés. Donc, ils vivaient underground, puis c'est pas eux qui avaient les meilleurs emplois. Et ces gens-là souffraient continuellement pour l'Évangile. Puis, ils avaient non seulement contribué financièrement au travail missionnaire de l'apôtre Paul plus d'une fois, mais il l'avait fait dans un état de pauvreté parce qu'il n'avait pas les meilleurs emplois. Il avait les petits emplois de serviteurs, mais il n'avait pas les emplois d'importance dans la ville parce qu'il était chrétien. Tu sais, des fois, tu souffres à court terme. C'est une chose, mais des fois, tu souffres à long terme. Et ça te prend vraiment la grâce de Dieu pour poursuivre ta route et son encouragement. Alors, là, il y en a qui sont devenus orgueilleux quand même dans l'Église parce qu'ils ont fini par décrocher des meilleures positions, puis il y en a qui étaient vraiment des serviteurs. Donc, il y avait vraiment des classes qui étaient maintenues dans l'Église. Puis il y en a qui étaient devenus orgueilleux. Puis au lieu d'encourager, ils critiquaient. Veux-tu savoir si tu es orgueilleux? Bien, d'abord, tu l'es. Tu n'as pas besoin de te poser la question. La seule chose qui peut t'arriver, c'est que tu sois moins. On est tous orgueilleux. C'est le péché nous a rendus orgueilleux. Mais veux-tu savoir si tu es très orgueilleux? Est-ce que tu critiques souvent? Si tu es une personne qui critique, peu importe, peut-être que tu critiques parce que dans ta culture familiale, tes parents critiquaient sans arrêt, puis toi, tu as épongé ça. On éponge, hein, la culture familiale où... Peut-être qu'il t'est arrivé tellement de malheur que tu es devenu amer, puis au lieu d'être une personne d'action de grâce qui voit Dieu à travers ses épreuves, mais là, tu es rendu amer. Puis si les gens te négligent un peu, s'ils te bousculent un peu, tu critiques. Le fruit de l'orgueil, c'est la critique. Le fruit de l'amour, c'est l'encouragement. Élever les autres. Tout le monde a des fardeaux incroyables à porter. Tout individu. Plus que tu penses. Il ne faut pas voir des drames dans la vie de chacun, mais il reste qu'on a tous nos fardeaux. Ça, je peux vous l'assurer. Même les grands hommes de Dieu avaient leurs fardeaux. Donc, vous avez tous vos fardeaux. Mais si on prend l'habitude de voir ce qu'il y a de positif dans la vie des uns et des autres, puis qu'au lieu d'éteindre le lumignon qui fume, on encourage les gens. Là, ils vont être motivés à se développer davantage dans le Seigneur. Puis on peut faire toute la différence dans leur vie. Donc, le premier point, c'est Paul qui remercie Dieu pour les Philippiens. Mais les Philippiens avaient des défauts d'orgueil, comme je l'ai mentionné, et de manque d'unité, puis de toutes sortes de choses. Mais ils ne commencent pas par ça. Ils ne leur tapent pas sa tête. Ils commencent par les encourager. Ils disent « Je remercie de Dieu ». Puis c'est spécial, hein? Puis c'est exactement ce que Jésus fait dans les lettres dans l'Apocalypse, là, au début de l'Apocalypse. « Église d'Éphèse, je connais ton travail, ta persévérance ». Tu as combattu les hérétiques à Éphèse. Puis, tu sais, ça commence pas par j'ai contre toi quelque chose de majeur, là. Tu as abandonné ton premier amour. Non, non, ça commence par les encouragements. La lettre à Thyatire aussi. Je connais ton œuvre, ta persévérance, ta patience, ta, mais j'ai quelque chose contre toi. Ça vient plus tard. Mais l'encouragement, d'abord. Trois encouragements pour une critique. Qu'est-ce que vous pensez de ça? Êtes-vous prêt à vous engager à ça? Mais au quotidien, là, avec votre épouse, avec vos enfants, pas deux critiques d'affilée. Si vous faites une petite critique, même si vous l'appelez constructive, elle est peut-être destructive dans le cœur de la personne qui la reçoit parce que vous avez tellement critiqué souvent et d'affilée, c'est trop. C'est trop. OK, j'ai encouragé mon enfant, c'est-à-dire je l'ai exhorté à faire quelque chose, là. Mais là, je vais trouver trois encouragements sans flatterie. La flatterie, c'est juste un encouragement exagéré, là, qui n'est pas vrai. Inquiète-toi pas, moi, les gens qui me flattent, là, ça ne m'intéresse pas. Aussi vite qu'ils te mettent sur le piédestal, aussi vite qu'ils sont prêts à en descendre, là, ta moindre faute, là. Mais des vrais encouragements qui viennent du cœur. Observe, écoute, observe, vois les qualités de ton épouse, de ton époux, des gens dans l'Église, vois ce qu'ils font, plutôt que de te concentrer sur ce qu'ils font pas. Puis dis-leur, je remercie Dieu pour toi, frère, je remercie Dieu pour ta patience, ta douceur, pour je remercie Dieu pour ton fidèle service à notre Église. Je remercie Dieu pour telle ou telle chose. Même s'il y a des défauts, puis tu aurais le goût de focusser sur ses défauts, focus sur ses qualités et remercie Dieu pour ça. C'est bon? Ça, c'est notre première leçon. Donc, les « je remercie Dieu pour toi », formidable, c'est super, etc., etc., c'est très important. Ils pensent pas... Tu sais, les hommes sont comiques, hein? Oh, j'ai pas besoin de dire à mon épouse que je l'aime, elle sait pas. Puis peut-être que tu as fait plein de choses qui disent, tu sais, il y a le langage verbal, mais il y a le langage non-verbal aussi, qui lui font sentir que tu ne l'aimes pas beaucoup. Alors, faites-toi pas d'illusions. On a tous des angles morts. Avez-vous remarqué que je vous exhortais en même temps que je vous encourage? Vous allez dire, ouais, ben il parle d'encouragement, mais il nous exhorte pas mal, Bernard. Deuxième façon d'encourager les autres, c'est leur exprimer notre conviction que Dieu les prépare à de grandes choses dans l'avenir. L'avenir est brillant. Parce que les gens se découragent, savez-vous quoi? Quand tout va mal, puis ils ne voient plus que l'avenir est brillant, ils ne voient plus la lumière au bout du tunnel. Je suis persuadé que celui qui a commencé dans vos cœurs, cette bonne œuvre de restauration, le petit Bernard arrive comme un pot tout cassé à 17 ans, cette œuvre de réparation des cœurs, de transformation à l'image de Jésus, je suis persuadé. C'est fort, là. Je suis persuadé, je suis convaincu que celui qui a commencé cette bonne œuvre en vous la rendra parfaite. Et dans le grec, le mot parfait, c'est complet. C'est tout le temps une expression de quelque chose qui est complètement réparé, complètement réglé. Vous comprenez? Complètement rebâti. Puis, tu sais, des fois, on a une potiche qui a tombé, on la recolle avec de la crazy glue ou autre colle, mais ça paraît. Quand Jésus nous rebâtit, là, ça prend du temps, mais il le fait à la perfection. Il n'y a pas une seule petite craque qui paraît après, quand il a terminé son travail. Donc c'est. Alors, le Seigneur va nous rendre parfaits pour le jour de Christ. Peut-être pas sur la terre, mais comme je dis à Brian, quand le Seigneur va revenir ou qu'on va aller vers lui, en un instant, en un regard, en une seconde, paf, il va parfaire notre sanctification, puis on va être parfaitement réparé, parce qu'il n'y a rien d'imparfait, il n'y a personne d'imparfait qui peut entrer au ciel. On s'entend? Même si tes péchés sont pardonnés, ce n'est pas grave, ça prend la perfection pour entrer au ciel. Et Dieu va s'en occuper. Donc voilà, l'avenir paraît sombre pour plusieurs d'entre nous. La pénurie d'emploi, le coût de la vie qui augmente, c'est incroyable. J'en reviens pas, les pressions morales d'une société de plus en plus dégradée. La pression est forte. Tout cela nous amène sérieusement à douter qu'il y ait quelque chose de positif pour nous à l'horizon. Mais Paul est là avec ses paroles. Je suis persuadé. Moi, je suis persuadé aujourd'hui, là, même si je ne vous connais pas tous, je suis persuadé que si vous êtes vraiment croyant, si vous n'avez pas donné votre vie à Jésus, c'est que vous êtes des spectateurs de l'Église de Dieu. Mais si vous en faites partie, si vous avez dit un jour à Jésus, « Jésus, pardonne mes péchés, tous mes péchés. Je suis triste de t'avoir offensé, et je ne veux plus t'offenser. Je sais que je vais encore t'offenser, mais j'aimerais que tu pardonnes tous mes péchés en bloc, et j'aimerais commencer une vie nouvelle avec toi. » Si vous êtes Vous faites vraiment partie de la famille de Dieu, parce qu'il y a des gens qui grandissent dans la religion évangélique, mais ils n'ont jamais donné leur cœur au Seigneur Jésus. Puis après ça, ils se demandent pourquoi la vie chrétienne est dure. Mais tu ne peux pas vivre la vie chrétienne. Même quand tu es chrétien, la vie chrétienne est dure. Imagine si tu n'es pas croyant et tu essaies de vivre la vie chrétienne. Mais là, ça va faire comme l'apôtre Paul dans Romains 7 qui dit « Ah oui, je connais les belles choses à faire, la loi de Dieu, ses commandements, mais plus j'essaye de les mettre en pratique, moins j'y arrive, misérable que je suis, qui me délivrera de ce corps de mort? » Donc, mais si tu es croyant, assurez-vous que vous êtes vraiment croyant. Et je ne vous dis pas ça en doutant que quelqu'un ne serait pas croyant ici. Je ne vous connais pas. Ah, ben c'est pour ça que je peux me permettre de dire ça. Personne ne va se sentir jugé. Je ne vous connais pas. Mais même à l'eau vive, à l'église où je vais, j'invite les gens à s'assurer qu'ils sont vraiment en relation personnelle, en communion avec Dieu pour recevoir son encouragement, ses consolations, sa puissance dans les moments de faiblesse et tout le reste. C'est bon? Donc, est-ce que ça vous arrive d'encourager les gens qui vous entourent en leur disant, « Garde, persévère, mon frère, persévère, ma sœur. Je sais que Dieu va faire de grandes choses avec toi. » Allez pas dans la flatterie, là, tu sais. Mais encourager les gens en voyant leur potentiel, en étant attentif à leur potentiel, même le potentiel de vos enfants. Tu sais, tu vois ton enfant qui fait des bonnes choses, là, encouragez-le. Puis dites-lui, ouais, je pense que le Seigneur Jésus a quelque chose de beau pour toi, là. Sans dire exactement ce que c'est, là, parce que toujours le danger de projeter nos désirs sur les autres. Edward Station, un des plus grands photographes reconnus mondialement, a été tenté d'abandonner la partie à ses tout débuts à l'âge de 16 ans. Il acheta une caméra et prit 50 photos. La seule des 50 photos qui était belle est celle qu'il avait prise de sa sœur au piano. Concentré sur les 49 autres photos ratées, son père n'avait rien de très encourageant à dire. Mais concentré sur la seule photo réussie de sa sœur au piano, sa mère lui dit que cette superbe photo valait à elle seule les 49 autres mauvaises photos. Et paraît-il, selon l'histoire, que c'est ce regard positif qui a suffi à faire que Edward Station est devenu un des plus grands photographes du monde avant là, la révolution technologique. Okay? Un petit poème écrit par William Arthur Ward se lit comme suit. « Si tu me flattes, je ne te croirai peut-être pas. Si tu me critiques, je ne t'aimerai sûrement pas. Si tu m'ignores, je ne te pardonnerai peut-être pas, mais si tu m'encourages, je ne t'oublierai jamais. » Et un autre exemple, Dante Gabriel Rossetti, grand peintre et poète britannique du 19e siècle, fut approché un jour par un homme âgé qui venait juste de se remettre à la peinture. Puis là, l'homme âgé présente ses toiles au grand peintre Rossetti en lui disant « Qu'est-ce que vous pensez de cela? » Puis le peintre a dit « Bon, il n'y a pas un grand talent là-dedans. Là. » Puis après ça, le monsieur, il ressort une autre série de peintures qu'il avait fait dans sa jeunesse. Parce qu'il avait peint, il avait commencé à peindre, il s'était découragé, il avait arrêté il y a peut-être des dizaines d'années qui s'était écoulé, puis il s'était remis à la peinture. Donc, les dernières peintures qu'il venait de faire, c'était pas fameux. Là, il présente ses premières peintures à Rossetti, puis c'est extraordinaire. La personne qui a fait ça a beaucoup de talent. Ça vaudrait la peine de l'encourager à poursuivre puis à développer son art parce qu'il y a un potentiel là-dedans, je peux voir ça. Là. Puis là, Rossetti dit, « Ben, monsieur, de qui viennent ces peintures? » Puis là, le monsieur s'est mis à pleurer parce qu'il dit, « Ça vient de moi. C'est mes premières peintures. » Mais il dit, « Personne ne m'a encouragé. Et à cause de ça, j'ai abandonné. » Mais, tu sais, c'est une histoire, évidemment, faite pour nous faire pleurer, mais... Une troisième façon d'encourager les autres est de leur dire que nous les aimons. Versets 7 et 8. Alors, Paul mentionne dans ces versets-là aux Philippiens qui les affectionnent. « Je vous chéris tous avec l'amour de Jésus-Christ. » Avec l'amour que Jésus-Christ met dans mon cœur pour vous. Paul est occupé par sa défense devant les tribunaux romains parce qu'il est soi-disant, on croit qu'il était prisonnier à Rome, puis il est en train de préparer son procès devant l'empereur. Il y avait bien d'autres choses à penser, là. C'est que de dire aux gens qu'ils l'aimaient. Avez-vous remarqué que lorsqu'on est préoccupé par nos problèmes, on devient très, très centré sur nous-mêmes? Mais il est là, il prépare sa défense devant les tribunaux romains, mais là, il pense souvent aux Philippiens. Puis, il a l'inspiration de leur dire Dieu m'est témoin que je vous chéris tous avec l'amour de Jésus-Christ. Il introduit sa déclaration d'amitié en disant, car Dieu m'est témoin que, bon, il prend Dieu à témoin, c'était très, très sérieux, là. C'est quand tu dis, Dieu m'est témoin que, ben, c'est pas si vrai, là. Ou bien tu es un menteur qui va attirer la colère de Dieu sur lui. Parce qu'il voulait assurer les Philippiens de la sincérité de son amour pour eux, puis les Philippiens n'avaient pas eu l'opportunité de renvoyer un don en argent à l'apôtre Paul. On voit ça dans le chapitre 4. Alors, Paul ne voulait pas que les Philippiens pensent qu'il l'aimait, qu'il les aimait moins pour autant. Vous comprenez? Donc, il veut les encourager. Il leur dit, je vous aime tous, je sais que c'est dur, vous combattez pour l'Évangile, vous vivez toutes sortes de pressions, mais j'aimerais vous dire que je vous chéris. Et chérir, là, ça peut faire drôle, hein? Chérir, là, je vous chéris. Je vous chéris, les frères. Non, mais c'est dans notre société. Tout est interprété de travers, mais c'est un verbe grec qui correspond à l'anglais « to long for ». C'est-à-dire, je désire vivement vous voir. Tu sais, je vous aime, là. C'est comme moi, j'avais hâte de voir Irénée et Lise. Tu sais, mais je les chéris, mais dans le sens biblique, évidemment. Mais alors, désirez vivement les voir. L'expression avec la tendresse de Jésus-Christ. Spécial, ça. Doux et humble de cœur, rempli de compassion, de tendresse. Il y a l'amour agapé, là, l'amour volontaire. Il faut prendre des décisions, tu sais, difficiles pour aimer les gens, pour se dépenser pour eux. Mais aussi l'amour qui est fait de tendresse, de délicatesse, d'affection. Ça existe aussi. C'est pas mauvais non plus, là, de se faire dire ça. Dites-vous aux gens que vous côtoyez, en commençant par les membres de votre famille, est-ce que vous leur dites que vous les aimez? Est-ce que vous leur exprimez votre affection? Oui ou non? Il y en a peut-être qui aimeraient dire, « Bien, dans ma famille, personne ne se disait qu'ils s'aimaient, puis nous autres, on a grandi de même, puis c'est pour les faiblards, cette affaire-là, là, puis on ne veut pas être identifié avec... des mauviettes, puis des faiblards, puis on ne le dit pas. Ils savent pas. Puis ils ont besoin de l'entendre. Vous n'êtes pas obligé de le dire comme ça, avec la même formulation. Tu sais, moi, j'ai trois garçons. Francis, te chéris avec la tendresse de Jésus. Mais je t'aime beaucoup, Francis. T'es un fils dont je suis fier. T'es un... Étienne, je t'aime beaucoup, puis je vais t'écouter. Lui, son langage d'amour, j'ai découvert que c'était l'écoute, puis moi, je parle beaucoup. Vous ne l'avez pas remarqué, j'imagine, mais je parle beaucoup. Puis trop parler, même si c'est pour le ministère, ça peut devenir égocentrique. Il faut faire attention. Vous comprenez? Il faut que je développe mon écoute. Deux oreilles. On devrait écouter deux fois plus qu'on parle, soi-disant. C'est sûr que si on a le don de parole, il faut parler. Aussi. Mais bon, alors, dire aux gens qu'on les aime, à commencer par les gens de notre famille. Vous savez qu'une église qui est forte, c'est une église dont les couples et les familles sont fortes. L'église ne sera jamais plus en santé que la santé des couples et des familles. Alors, le ministère, savez-vous quoi? Ça commence chez vous. Ça ne commence pas dans les activités officielles de l'église. Ça commence dans votre quotidien avec les gens qui vivent à vos côtés. Ça, c'est super important à comprendre. J'aimerais vous raconter une histoire. Ça se peut que je pleure un peu. Bien, je pleure pas beaucoup, moi, mais en vieillissant, je me rends compte que je suis plus sensible. Parce que si je suis un peu ému, là, ça peut arriver. Peut-être que non. Marie sut depuis toujours qu'elle était différente des autres enfants et cela la faisait souffrir. Elle était née avec un palais de lièvre et endurait depuis qu'elle était petite les propos moqueurs et méchants de ses camarades. Puis c'est pas mieux, hein, aujourd'hui. Tu sais, comment est-ce qu'ils appellent ça à l'école, là, le bowling ou le L'intimidation, tu sais, on pensait que c'était révolu. Moi, j'en ai eu de l'intimidation à l'école à cause de mes problèmes, mes rejets. Ils m'ont même enfermé dans une case à un moment donné, tu sais. À moi qui est claustrophobe. Bon, alors, faut pas que je perde le fil, là. Excusez-moi. Donc, Marie savait qu'elle était différente, elle était née avec un palais de lièvre, puis elle endurait les propos moqueurs et méchants de ses camarades. Elle croyait que personne en dehors des gens de sa famille ne l'aimerait jamais. Jusqu'au jour où elle rencontra son nouveau professeur de troisième, Madame Léonore, une femme au visage rond et bienveillant. Aux États-Unis, dans les années 50, une fois par année, les professeurs faisaient venir les enfants un à un, leur demandaient de se boucher une oreille avec un doigt et testaient ainsi leur capacité auditive. Marie était sourde d'une oreille, en plus d'avoir son palais d'ièvre. Madame Léonore le savait, mais jamais... jamais elle n'en parlerait aux autres enfants. C'est ça qui me touche, pour ne pas aggraver son sort. Ça sera pas long. Ça va revenir. Madame Léonore dit à Marie, « J'envie tes parents. J'aimerais que tu sois ma petite fille. » Et ces paroles ont changé la vie de la petite Marie. Tu sais, on pense que ça prend des années d'encouragement ou de bonnes choses pour changer la vie de quelqu'un, mais non. Pas nécessairement. C'est sûr que si tu vis dans un contexte qui est continuellement négatif, électrique, et les enfants n'ont même pas le goût de revenir à la maison parce que c'est papa et maman chicanent, c'est pas agréable, puis eux autres, ils essayent de limiter les dégâts, hein. Les enfants prennent ça sur eux. Mais quand même, il y a des encouragements comme ça là, qui font toute la différence dans ta vie. Et là, elle a su que Mme Léonore l'aimait, mais l'amour de Mme Léonore et son encouragement n'étaient qu'un reflet de l'amour de Dieu. Et la petite fille a repris goût à la vie. Puis je pense que les moqueries et les rejets des autres ne l'ont pas atteint autant dans l'avenir. Oh, c'est... Il y en a qui l'ont blessé encore, vous comprenez? La vie, là, c'est pas pour rien que Dieu nous demande de pardonner. C'est parce que on se blesse les uns aux autres. Parfois, on est l'offensé, parfois, on est l'offenseur. Mais l'encouragement, mais il faut vous encourager les autres, là, juste à temps que ça devienne une habitude. Au début, peut-être que ça va vous sembler forcé. C'est comme quand on développe une nouvelle habitude, là, c'est tellement pas naturel pour nous qu'on a l'impression que c'est exagéré. Encouragez, priez, dites « Seigneur, tu vas m'aider à développer l'encouragement, l'habitude d'encourager les autres autour de moi, tu vas m'aider à faire ça. Il y aura un temps pour les avertir, pour les exhorter, mais là j'aimerais apprendre à les encourager. » Quatrième façon, et on termine avec cela, d'encourager les autres et de leur mentionner que nous prions pour leur croissance spirituelle, versets 9 à 11 dans Philippiens. Alors, ça c'est 9 à 11, s'il vous plaît. Ça, c'est bon? Super. Croyez-vous vraiment que la croissance spirituelle dépende avant tout de l'action puissante et surnaturelle de Dieu dans notre vie? Il y a des croyants qui commencent la vie chrétienne par la grâce, mais, tu sais, parce que quand tu te convertis, hey, tu as compris que tu n'atteindrais jamais la perfection que Dieu exige pour entrer en communion avec lui, puis il fallait que tu te tournes vers Jésus pour qu'il efface tous tes péchés, parce que c'était la seule façon d'entrer en communion avec Dieu, de recevoir son Saint-Esprit qui vient vivre dans ton cœur. Mais il y a beaucoup de gens qui continuent la vie chrétienne par les œuvres. Ils commencent par la grâce, mais ils ne vivent pas la vie chrétienne par la grâce, c'est-à-dire en comptant sur la puissance de Dieu. Parce que vivre la vie chrétienne par la grâce, ça veut dire, « Oh Seigneur, là, je vois que tu me demandes d'être moins égoïste avec mon épouse, mais je ne suis pas capable de le faire. Je te supplie de le faire par ta grâce, comme tu m'as sauvé il y a 5-6 ans, là, par ta grâce. Transforme mon cœur par ta grâce. Mais faut que tu aies la tristesse d'offenser Dieu ou ton épouse ou les gens qui t'entourent, puis que puis après ça, tu dis, je suis pas capable. C'est pas l'idée de prendre 36 000 nouvelles résolutions là, que tu ne seras pas capable de tenir. Demande à Dieu et au Saint-Esprit de déraciner l'orgueil, l'égoïsme, l'impatience ou je ne sais pas quoi encore de ton cœur. Puis là, tu vas vivre des miracles. Puis Dieu va te brancher sur le Saint-Esprit. Si vous marchez selon l'Esprit, c'est-à-dire branché sur le Saint-Esprit, moi, je vois une image de plombier. Là. C'est des fois, je me branche sur mon ego, Bernie, et je me mets à critiquer, Francine. Puis là, je dis, Saint-Esprit, débranche-moi de mon ego, puis branche-moi sur le pipeline du Saint-Esprit, puis là, l'amour coule à flot dans mon cœur et je retombe profondément amoureux de ma petite. Ça fait 44 ans qu'on est mariés, puis je l'aime de plus en plus. Mais c'est pas, on mérite rien là-dedans, c'est la grâce de Dieu, comprenez-vous? Parce que j'ai été un égoïste, je suis encore, mais moins. Je suis moins égoïste. Il y a de l'espoir. Donc, écoutez, encourager un croyant, c'est pas de fermer les yeux sur ses manquements, mais de le soutenir dans ses combats. Puis là, tu peux pas raconter tes combats personnels à tout le monde, mais Paul connaissait les combats des Philippiens. Il avait développé une relation d'écoute, de compréhension, puis il savait avec quoi il luttait, puis il savait ce qu'il devait travailler là, pour s'améliorer, puis il priait pour eux. C'est rare qu'on prie, avez-vous remarqué, dans nos réunions de prière, pour la croissance spirituelle des gens de notre Église, ou de notre Église en général, on pourrait dire au Seigneur, « Seigneur, un bon mercredi soir, tu sais, on peut prier pour que un tel se trouve un emploi, puis un autre tel puisse être réconforté dans la maladie, puis qu'un autre tel puisse régler ses problèmes financiers, mais pourquoi est-ce qu'on prierait pas pour la santé spirituelle les uns des autres? Et s'il y a des gens qui nous ont confié leur bataille spirituelle. Là. Moi, je lutte avec l'alcool. Là. Je ne suis pas capable de... Ou je lutte avec la pornographie, surtout pour... Ou je lutte avec l'impatience. Je me mets en colère à tout moment. Ça n'a pas de sens. Puis j'aime pas ça. Je trouve ça laid, mais je ne suis pas capable de m'en sortir. Oh, je demande au Seigneur de le faire dans sa grâce. Mais pourquoi tu n'aurais pas deux, trois chrétiens que tu connais bien, là? Qui prie pour toi. Puis pour ce qui est des faiblesses générales de nos églises, on peut prier en groupe, là, c'est pas grave. Quand c'est des choses très personnelles, il faut vraiment faire attention. Vous êtes d'accord? Parce que tu n'as pas besoin que les gens te pilent dessus puis qu'ils te pointent du doigt, tu sais, pour tes faiblesses. Tu n'as peut-être pas le goût de leur dire. Ça, c'est correct. Mais arrange-toi pour que... Parce que la prière, la relation là, entre prière et croissance spirituelle est très, très évidente dans les lettres de l'apôtre Paul. Donc, c'est important. C'est bon? Alors, c'est quoi ma petite formule? Petite formule, c'est quoi que je vous ai dit? Pour chaque critique constructive, c'est-à-dire exprimée avec amour et douceur, pour chaque critique constructive, trois encouragements. Tant que ça ne devient pas une habitude dans votre vie, traînez-vous une petite feuille. Je viens d'exhorter Pierre-Alexandre pour qu'il serre ses traîneries dans sa chambre. Mais là, Seigneur, tu vas me permettre de l'encourager. Avant que je lui dise autre chose. Sinon, c'est une critique après l'autre. Une critique après l'autre. La mitraillette ta critique. Les gens n'ont pas besoin de ça. Merci Seigneur pour ton amour. Tu nous consoles, tu nous encourages, tu nous prends tel qu'on est. On chantait ça autrefois. Tel que je suis, je viens à toi. Et tu nous rebâtis, tu nous fortifies, tu nous redonnes confiance en nous. Tu nous permets de développer notre plein potentiel. Mais tu veux qu'on le fasse avec toi dans l'amour les uns pour les autres. Donc, je te prie que tu bénisses l'Église de Saint-Félicien dans tous ses besoins. Et je te remercie pour cette belle assemblée qui est devant moi, Seigneur, et qui est le témoignage de ton travail merveilleux dans ce groupe. En ton nom précieux. Amen.